J'ai un bon bilan parce que bon, déjà les gens, les visiteurs qui viennent au musée avec qui j'ai l'occasion de discuter sont contents de l'expo. Ils s'attendent pas à voir une expo sur les jeux vidéo comme ça. Ils viennent parce qu'ils connaissent les jeux vidéo. Alors ils ont joué à Pac-Man ou ils ont joué à Counter-Strike ou autre. Puis ils viennent au musée, ce qui est déjà assez bizarre d'aller voir des jeux vidéo au musée. Et puis en fait, soudainement, dès qu'ils sont dans le musée, c'est là où l'expo commence vraiment. C'est-à-dire que c'est là où ils se rendent compte qu'ils ne vont pas voir du Counter-Strike. Par contre, ils vont voir un niveau de Counter-Strike en carton, etc. Soudainement, ils se rendent compte que le monde des jeux vidéo auquel ils pensaient, ou qu'ils pensaient voir dans l'expo, ce n'est pas celui qu'ils vont voir, mais ils en voient d'autres choses. Puis ils sortent contents et étonnés en général de ce qu'ils ont vu. Donc un bilan déjà très général qui est plutôt positif par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens, ils savent, ils pensent voir quelque chose, ce n'est pas ce qu'ils voient, mais ce qu'ils voient les intéresse. Alors que quand tu vas voir une expo sur un artiste que tu connais, bah tu sais ce que tu vas voir, puis c'est effectivement ce que tu vas voir là-bas dans l'expo. Après, au niveau du musée, bah nous on a doublé le nombre de visiteurs, donc ça montre que la maison d'ailleurs, elle peut, disons, elle a un potentiel d'accueil et un potentiel d'extension qui est beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu penser a priori. Et je suis le premier à être surpris d'ailleurs de ce chiffre-là. Donc c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, c'est beaucoup de gens en Suisse aussi qui normalement venaient pas à Yverdon et ont découvert. Moi, il y a des mecs qui m'ont dit c'est la première fois que je vois. Enfin, je savais pas que la maison d'ailleurs ça existait et je savais pas que à Yverdon il y avait ce musée là. Et puis, donc pour moi, c'est un bilan aussi vachement positif de voir qu'en Suisse, alors qu'on est tous à 25 minutes les uns des autres, bah des gens découvrent le musée à l'occasion d'une expo sur les jeux vidéo et puis trouvent ça intéressant. Et puis, disons. Découvre un monde voilà, qu'ils ne connaissaient pas. Et puis l'autre, le dernier avantage de Playtime, ou le dernier bilan positif de Playtime pour moi, c'est les demandes en fait. C'est qu'on a un nombre de demandes au musée. Alors on n'a pas doublé le nombre d'employés par contre, mais on a plein de monde qui nous demande des choses. Donc des écoles d'art, des musées. Moi j'ai par exemple, typiquement un truc un peu improbable, il y a le Quai Branly à Paris qui est venu me voir parce qu'il voulait faire une expo un peu incroyable, plutôt sur des choses à c'est symbolique, etc. Et donc, on a une sorte de diffusion, de rayonnement qui est beaucoup plus grand qu'avant et puis qui fait que les gens découvrent que la maison d'ailleurs, c'est un lieu où on est à la fois dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ce qui plaît aux gens, dans ce qui parle aux gens, mais on peut aussi travailler sur des pratiques artistiques qui ne sont pas connues des gens.
Qu'est-ce qui leur plaît le plus? Qu'est-ce qui les étonne le plus?
Dans Playtime, donc. Ouais. Mais je pense que c'est de ne pas voir du jeu vidéo tout le temps. Parce qu'ils les évidemment, quand tu mets des jeux vidéo, les gens ils s'attendent à voir des jeux vidéo. Donc ça va pas forcément les étonner. Après, le jeu peut les étonner. Mais ce qui les étonne le plus, c'est de voir des sculptures, c'est de voir des photos, c'est de voir des installations interactives. Il y a une installation qui s'appelle Faces, par exemple, d'Arturo Castro, où tu as ton visage sur lequel est superposé un autre visage et puis qui bouge en temps réel. C'est en fait pas un jeu, puisque c'est vraiment une installation qui fait superposer ton visage à un autre, mais on éprouve une addiction type du jeu, parce qu'on veut chaque fois savoir quel est le prochain visage qui va se coller sur le nôtre. Ben ça, les gens, ils s'attendent pas du tout à avoir quelque chose comme ça, ils comprennent pas pourquoi c'est lié au jeu vidéo, puis après, en réfléchissant un peu, en discutant avec les gens du musée ou avec les visiteurs qui sont dans le musée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dans le musée, ben ils se rendent compte qu'en fait, on utilise le même type de programme que dans les jeux vidéo, et donc c'est pour ça que cette pièce-là, Faces, elle est dans Playtime parce qu'elle va utiliser des processus, des algorithmes, des représentations qui ont cours dans les jeux vidéo.
C'est ce qui marche le mieux, entre guillemets, dans les installations?
C'est difficile à dire parce qu'il y a plein de trucs incroyables. Et je ne dis pas ça parce que l'expo est incroyable, je dis ça parce que si tu prends Faces, c'est incroyable. Mais si tu prends Level Head, c'est de bouger des petits cubes. Puis dans chaque cube, chaque cube génère un espace avec des QR codes. Et puis en bougeant le cube, en orientant le cube, en inclinant le cube, tu fais bouger le personnage qui est dans le cube. Ça marche super bien. Donc je ne sais pas si c'est celle qui marche le mieux, mais c'est en tout cas une de celles qu'on me demande. Il y a même des collectionneurs d'art contemporain, rien à voir avec le monde de la SF, rien à voir avec le monde de l'art média, qui m'ont demandé combien coûtait Faces, parce qu'ils voient dans ce type de production-là l'avenir de l'art contemporain. Donc oui, c'est peut-être ce qui touche le plus les gens, parce que c'est la première fois qu'on fait de la reconnaissance faciale qui bouge aussi bien. C'est du Mac, hein. Et ça rend les gens addicts. Mais d'autres installations marchent aussi bien. Mais je pense que c'est là peut-être que ça serait, avec Levelhead, je pense que c'est les deux qui marchent le mieux, qui ne sont pas des jeux vidéo, qui sont vraiment des installations d'artistes contemporains qui travaillent à partir du monde du jeu vidéo.
Et en termes de comportement, les gens viennent pour l'expo de jeux vidéo. Est-ce qu'ils vont aussi voir la salle Jules Verne et la partie un peu plus SF?
Oui, mais la salle Jules Verne a été modifiée. C'est-à-dire que l'espace Jules Verne, à la base, est un espace permanent. C'est l'expo permanence de la maison d'ailleurs, où on monte les fonds anciens, enfin, depuis le 16e siècle jusqu'au 19e, et le fonds Pulps. Mais j'avais décidé pour Playtime que toutes les vitrines allaient, donc toutes les vitrines dans lesquelles on exposait les œuvres de Jules Verne ou les Pulps allaient être remplacées par l'histoire du jeu vidéo, c'est-à-dire en fait le jeu de plateau classique, avec cette idée assez intéressante qui est la suivante, c'est que quand tu vas voir une expo jeu vidéo, tu as tendance à dire, par exemple, il y a une section d'expo qui s'appelle Assault on Reality, qui montre que le jeu vidéo s'inspire du monde réel. Et puis que certains jeux vidéo sont des jeux politisés. Alors les gens sont outragés, ils sont outrés un peu. Ah mon Dieu, les jeux vidéo, ils utilisent la politique. Puis quand on leur montre des jeux de plateau classiques, style des jeux de loi du 18e siècle, où il y a une forme d'éducation politique qui est faite à travers le jeu, ils se rendent compte que la politique dans le jeu, c'est pas quelque chose qui date du jeu vidéo, mais que ça a toujours fait partie du ludique. Donc en fait, on a informé l'espace Jules Verne avec l'histoire du jeu. Donc les gens voient peut-être moins le côté SF parce qu'ils voient toujours le fond, ils voient les bouquins, mais ils découvrent peut-être moins le contenu même des livres. Par contre, ils voient très bien l'idée que l'espace Jules Verne est un espace dédié à l'archéologie, enfin au principe des jeux vidéo. Et je crois qu'ils sont plus contents comme ça, parce que ça réunifie le musée. Avant, tu avais vraiment une sorte de schizophrénie entre le côté Jules Verne, SF traditionnel, ou disons Utopie, Voyage extraordinaire et SF traditionnel. Et puis l'expo temporaire qui était beaucoup plus dans le contemporain, puis il manquait un peu le chaînon manquant. C'est que là, en travaillant mieux les espaces, on enlève ce chaînon manquant, et puis donc les gens ont l'impression d'avoir vu une expo, même si par ailleurs ils ont vu deux espaces différents.
Il y a des thématiques difficiles, tout du moins pointues, parce que ça interroge aussi notre humanité, etc. C'est des choses qui s'abordent facilement par rapport aux gens qui viennent, ou est-ce qu'ils le voient en surface?
Bon, on a un support qu'on offre aux visiteurs à l'entrée. Avec l'entrée, ils reçoivent un petit fascicule qui leur explique les œuvres. Donc déjà, tout le monde a accès à une information, on va dire, minimale. C'est toujours dur de savoir dans quelle mesure. Il y a trois grands types de visiteurs dans un musée. Il y a ceux qui consomment de la culture. Donc eux, ils viennent voir l'expo, ils ont une heure, ils parcourent les espaces, ils sortent, ils disent que c'est génial. Puis, tu as des gens qui n'ont rien à faire. En général, c'est les suivants. Ils suivent. Et puis eux, en fait, souvent, ils sont interpellés. De là à pousser les questions, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent. Il n'y a personne qui est indifférent avec une expo comme Playtime. Voilà. Même si le but au début c'était de dire, bon, je sais pas pourquoi je viens, mais je viens, je suis mes parents ou autre. Et puis tu as toute une partie du public qui est peut-être plus grande qu'avant, qui connaît déjà le monde du jeu vidéo. Et donc finalement, le passage pour en arriver à quelque chose de l'ordre d'une réflexion sur l'humanité, sur les sociétés actuelles, est facilité parce que tu connais déjà. C'est-à-dire, quand tu connais déjà les œuvres, ben, en fait, tu n'as pas besoin d'apprendre les œuvres, tu vas pouvoir assez rapidement passer au discours muséographique. Donc je dirais, c'est difficile à dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens comprennent qu'il y a un enjeu à la fois anthropologique, à la fois sociologique, et puis que c'est des choses qui sont intéressantes. Après, est-ce qu'ils se le formulent? Si tous les directeurs des musées pourraient répondre à cette question-là, quelle que soit l'expo d'ailleurs, est-ce que tout le monde s'interroge sur le cubisme synthétique de Picasso, par exemple? Je ne suis pas convaincu. Mais en tout cas, là, dans Playtime, les gens s'interrogent parce que souvent, ils ne connaissent pas. Alors, ils ne comprennent pas trop, et ils disent mais c'est quoi? Alors ils demandent aux enfants qui sont là, donc tu as les troisième génération comme ça, qui parlent avec les enfants, qui leur expliquent des trucs, et puis ça crée une sorte de discours qui est étonnant en fait, qui est assez surprenant, parce qu'en tout cas moi depuis que je suis à la maison d'ailleurs, j'ai jamais vu ça. Il y a beaucoup de bruit, il y a une expo, les gens parlent, voilà.
On est à mi-parcours, c'est quoi la suite? J'imagine que tu as prévu l'expo d'après.
J'ai prévu les quatre expos d'après, ouais, comme c'est, ouais, tu peux pas faire autrement. La suite, bon, Playtime finit en décembre. On a encore quelques événements qu'on va faire autour de Playtime dans la deuxième partie de l'année, mais un peu moins, parce que là, il faut qu'on prépare l'expo suivante. L'expo suivante, ce qui devrait combler les fans de SF, c'est qu'en fait, on est en train de monter une expo permanente, une deuxième, qui s'appelle Souvenirs du futur, et qui va montrer l'histoire de la SF au XXe siècle à travers les quatre grands médias que sont la littérature, la BD, le cinéma, la musique. Et donc, en fait, on fait une expo où on montre nos fonds, qui sera la première expo sur la SF au monde, contrairement à l'espace Jules Verne, qui a trois lieux de représentation en Europe. Mais sur la SF, on va vraiment profiter du fond immense qu'on a pour le montrer. Et puis, on a une temporaire qui commence en même temps. On expose les croquis de Briclot. En fait, on prend Alexis Briclot, on prend ses croquis, et puis on montre comment Briclot, il part des croquis pour arriver aux œuvres numériques. Et on montre les différentes étapes de créativité. L'expo s'appellera en avant-première Genèse. Et puis, après, on a une expo sur Stalker. dont le bouquin d'Estrogatsky, le film de Tarkovsky, et puis toute l'esthétique de la zone, ces zones radioactives où on n'ose pas aller, où c'est une quête spirituelle, etc. Puis après, on a une grosse expo sur les super-héros, dans l'art contemporain. Et puis après, on verra.